Bonsoir à toutes et à tous, et en particulier au public. On est content de retrouver du public pour nos séances de conseil municipal. Alors, je vais commencer par l'appel. Monsieur Lancel.
Présent.
Madame Lousset. Absente. Monsieur Duc.
Présent.
Madame Chut.
Présent.
Monsieur Hamelin.
Présent.
Madame Lyon.
Présent.
Monsieur Farroy.
Présent.
Madame Chantal Rognaud-Gallois.
Présent.
Monsieur de Maigret.
Présent.
Monsieur Nouga-Nouga.
Présent.
Qui sera notre secrétaire de séance. Monsieur Houllier.
Présent.
Madame Piocergue.
Présent.
Monsieur Tente Marquez.
Présent.
Madame Jacquie.
Présent.
Madame Poirier.
Présent.
Madame Rapaille.
Présent.
Monsieur Bruno.
Présent.
Madame Sigé nous rejoint. Monsieur Contant.
Oui.
Madame Martinet est absente, excusée, représentée par Monsieur Hamelin. Monsieur Gunner.
Présent.
Madame Galochet.
Présent.
Monsieur Billou.
Présent.
Monsieur Kerbache.
Présent.
Monsieur Chikaya est absent, excusée, représentée par Madame Lagoutte. Madame Causseron.
Présent.
Madame Lagoutte.
Présent.
Et Monsieur Durox. Avant de démarrer ce conseil de manière formelle, je souhaiterais que nous rendions un hommage à M. André Ponce. Avec son épouse, ils étaient dentistes installés à Nangis pendant plusieurs dizaines d'années. Il a été également membre de ce conseil municipal de 1989 à 1995. Je m'appelle Madame Sigé.
Bonsoir.
Et donc, je vais vous demander de bien vouloir vous lever et de respecter une minute de recueillement pour Monsieur Ponce. Je vous remercie. Alors, nous devons donc commencer par l'approbation du procès-verbal de la dernière séance de notre conseil municipal en date du 8 juillet 2021. Nous n'avons pas... Oui, Madame Lagoutte.
Merci. Avant, juste d'aborder le procès-verbal, comme vous parliez du public tout à l'heure, Madame le maire, peut-être qu'on pourrait envisager de retourner de nouveau les tables pour que le public ait accès à l'écran. Parce que pendant en période de crise sanitaire, c'est vrai qu'il y avait un besoin d'éloigner les fauteuils, etc. Mais on pourrait peut-être l'envisager, parce qu'avant, vous avez l'écran en face pour pouvoir suivre les délibérations. Mais bon, les âmes, eux, ne les ont pas, donc peut-être... l'envisager pour une prochaine
c'est
séance.
C'est noté.
Voilà. Oui, je voudrais faire une explication de vote sur le procès verbal du 8 juillet 2020. Alors, je suis... Pardon. 2021, oui. 2021. Donc, je suis, interloquée par rapport à la question écrite que je vous ai communiquée et que vous avez bien remise, bien sûr, sur le procès-verbal, parce qu'en fait, vous ne répondez pas à mon courrier et à la question pour laquelle je vous ai interrogée. Vous parlez des demandes de subvention pour la restauration de l'église. Apparemment, je ne sais pas si vous avez bien lu mon courrier, Madame le maire, mais je ne parle pas du tout des demandes de subvention de l'église. Je parle de la forme et du fond de la délibération, puisque je vous le rappelle, nous avions voté un certain nombre de modifications lors de ce passage de cette délibération, et il y avait eu des modifications suite au vote du conseil municipal. Donc je ne vois pas du tout la réponse, elle n'est pas du tout liée à mon courrier. Donc pour ces raisons, nous voterons contre, parce que je trouve qu'il n'est absolument pas normal que vous ne répondiez pas à mon courrier. Je sais pas, vous répondez sur un autre sujet. Donc voilà, le fait que vous ne répondez pas favorablement à la modification de cette délibération, qui est du coup illégale, donc on avisera le contrôle de l'égalité. En tout cas, on en informera. Je vous remercie.
On reprendra une délibération quand on aura la totalité du plan de financement.
On ne peut pas, puisque la délibération que l'on prendra avec la totalité du financement ne sera pas la même que celle que nous avons prise auparavant. Ce ne sera pas la même délibération, ce ne sera pas les mêmes montants, donc ce n'est pas du tout la même délibération.
Donc on fera une annulation de la précédente délibération pour voter la nouvelle.
Comme vous pêche que celle-ci était fausse.
Elle n'est pas fausse, elle est mal rédigée. Donc, je soumets au vote le procès-verbal du dernier conseil municipal. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, vous avez reçu également les décisions, la liste des décisions prises entre notre précédent conseil et celui-ci. Il n'y a pas eu de question? Ah, vous en avez une. Allez-y, Madame Lagoutte.
Oui, quelques observations sur l'ensemble des décisions que nous avons reçues. Alors, j'avais une petite question, mais je pense y avoir réfléchi depuis et avoir une certaine réponse. Donc, j'ai vu qu'il y avait toute une série de décisions qui n'ont pas été attribuées, mais qui néanmoins apparaissaient dans la liste récapitulative des décisions du maire. Donc je pense que celle qui concerne les avenants, ça veut certainement dire que vous n'aviez pas besoin de reprendre une décision puisque c'est un avenant de la Convention. Mais il y a toute une série aussi de décisions qui n'ont plus été attribuées. Donc je voulais savoir pourquoi, puisque voilà, il y en a certaines. Bon, je vous donne un exemple. La 121, la signature du compte de commande a été enlevée. Il y avait aussi... voilà, des contrats de prestation de service entre la médiathèque et Clémence Morisseau. Et du coup, en dernière page, on voit qu'elles ne sont plus attribuées. Donc, elles ont quand même été créées et plus attribuées. Donc, je voulais juste savoir pourquoi.
Derrière, elles n'ont pas été signées, donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas été attribuées. Et elles avaient déjà un numéro.
D'accord.
Et donc elles ne sont pas mises en application.
D'accord. Et pourquoi elles n'ont pas été signées du coup? C'est parce qu'elles sont reportées ou...
Oui. Alors, c'est des demandes d'informations complémentaires et qui ne sont pas arrivées.
D'accord.
Donc,
vous avez décidé.
Les conventions ne sont pas appliquées.
D'accord. Je voudrais revenir aussi sur les décisions 107, 108 et 109. donc de vos décisions. Il s'agit de plusieurs projets de travaux. Pour bien tourner mes pages, je vais remettre le micro. Voilà. Alors, vous sollicitez, parce que du coup, le conseil municipal vous a autorisé à pouvoir solliciter des subventions sans limite de montant pour certains travaux, puisque ça a été voté en juillet 2020, et vous sollicitez des subventions pour des travaux très importants. Et je me demandais, du coup, sur ces délibérations, pourquoi elles n'ont pas été travaillées en commission 4 devis, parce que on a quand même des montants qui sont très importants. Alors, notamment, sur la 116, on va prendre un exemple.
Ce sont les délibérations qui passent en commission et non les décisions du maire.
D'accord, mais normalement, elles font l'objet quand même d'un travail en commission, surtout
non, pas nécessairement.
Pas nécessairement, d'accord.
Il n'y a aucune obligation.
Vous n'avez pas d'obligation.
Donc, en commission, les commissions, nous utilisons les commissions pour préparer les conseils municipaux. Mmh. Et donc, nous étudions en commission les délibérations qui sont soumises au conseil municipal.
D'accord. Parce que, par exemple, pour l'éclairage public, on a quand même près d'1 856 000 euros de travaux à prévoir. Mais ça, on ne travaille pas du tout en commission, vu les montants.
Là, c'est une autorisation à solliciter les subventions.
Oui, d'accord.
Donc, derrière, si c'est autorisé, on en discute en commission, parce que forcément, il faut une délibération.
Et pourquoi on n'a pas fait de délibération maintenant?
Mais parce que c'est pas encore attribué, donc on ne prend pas de délibération pour l'instant.
Bah, vous pouvez passer une délibération en faisant un plan de sollicitation de subvention.
Non, parce qu'il n'y avait pas de conseil là pendant les temps. On n'allait pas faire un conseil pour ça.
Bah, vous auriez
plus. Parce que là, c'est bien. On est là, ce sont les décisions entre le précédent conseil du 8 juillet et celui-là.
Ben non, parce qu'il y en a qui datent du mois de mai. Donc non, c'est pas possible. Par exemple, le projet d'amélioration du parc public, elle date du 21 mai. Donc il y a eu un conseil après le mois de mai.
Je voudrais rebondir sur ce que dit Madame Lagoutte, ma collègue. En fait, par principe, vous avez effectivement, Madame le maire, le droit de prendre ce genre de décision en vertu de la délégation qui vous a été consentie dans le cadre de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Là où nous nous étonnons quand même, simplement, c'est le fait que vous preniez ce genre de décision sans qu'aucun travail ait été fait en amont dans le cadre d'une commission, quelle qu'elle soit, de travaux, de cadre de vie, etc. Ce sont des montants quand même très importants qui ne sont pas vus avant, ni dans des fiches projets ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste ça. Elle ne remet pas en cause votre décision en ceci, ce genre de thématique, mais simplement le fait que ce sont quand même des travaux extrêmement importants, donc des demandes de subventions extrêmement importantes, et ça n'a pas été travaillé au préalable par l'ensemble des conseillers municipaux dans le cadre de commission.
Juste pour une explication pour le public, ce sont des dossiers où on demande avec aucune certitude d'obtenir. Donc le but est bien de faire des dossiers et de répondre dans les délais à l'État pour pouvoir candidater et se positionner sur ces subventions.
Pour répondre rapidement, bonsoir à tous. Les décisions que vous voyez là, c'est simplement pour travailler ce qu'on appellera en temps caché, afin d'éviter de perdre trop de temps. Les budgets, effectivement, comme vous le dites, sont très importants, mais pour pouvoir avoir les subventions, il faut les réclamer. Donc, nous, on est prêts à faire des commissions, mais ça ne nous empêche pas en amont de pouvoir faire toutes les demandes nécessaires pour que les subventions puissent être mises dans les tuyaux et qu'on puisse être attendu. Nous l'avons fait, par exemple, pour la vidéoprotection, nous en avons débattu l'an passé, ce qui permet de faire les projets beaucoup plus vite. On parlait d'un montant important d'un million de 800 000. Nous allons l'évoquer probablement tout à l'heure, puisqu'on a des budgets importants à prévoir sur la collectivité, on regarde l'état de la collectivité, on en parlera. Ça me tient beaucoup à cœur. Ça nous permet, encore une fois, de pouvoir bloquer et d'informer tous ceux qui peuvent nous subventionner que nous allons déposer des dossiers. Si on travaille dans la méthode dont vous parlez, c'est on fait l'arrêté, enfin, ce document-là, après on fait une commission, après on réfléchit, et on est au comité de module, ça fait 3 ans qu'on n'a rien fait, et au bout du compte, on n'a pas avancé. Nous, la cible, c'est pas ça. Notre cible, c'est de faire les choses et que ce soit fait rapidement pour le bien des logiciens.
Oui, enfin, depuis le mois de mai, il aurait pu y avoir quelque chose quand même. Voilà.
Non, mais...
Il y a quand même eu des conseils depuis le mois de mai. Voilà. Bon, je vais passer à un autre sujet. Concernant les décisions que vous prenez pour les embauches d'artistes musiciens, il n'y a pas de montant indiqué sur les décisions, alors qu'il y a des montants indiqués, par exemple, pour les troupes qui interviennent. Donc on en avait déjà parlé de
des montants. Ben oui, vous nous aviez dit qu'il fallait prendre c'était des arrêtés. On a rectifié, on a suivi vos conseils, madame.
D'accord, mais il n'y a pas de montant. On avait parlé aussi des montants, comme d'ailleurs vous le faites pour les spectacles. Vous indiquez le montant, mais vous ne les indiquez
alors,
pas.
Pour l'information du public aussi, là dans les dossiers de conseil, on a uniquement le numéro, voilà, ce que vous avez à l'écran. Mais toutes les conventions sont consultables dans un classeur pendant une semaine en mairie entre le moment où les élus reçoivent la convocation et le moment où se tient le conseil. Donc vous avez une semaine pour poser les questions et qu'on puisse vous apporter toutes les réponses nécessaires.
Mais on peut tout à fait les poser en conseil municipal.
Bien sûr. Et si vous voulez avoir des réponses plus précises, utilisez le laps de temps complet que vous avez à votre disposition.
Ben, je vais continuer, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas me les apporter tout de suite, vous m'écrirez. Je voulais savoir au niveau de la décision 117. Alors, je pense que là, peut-être votre premier adjoint va pouvoir me répondre. Puisqu'il s'agit d'informatique, je voulais juste savoir ce que c'était les licences G Suite Basique, for Google, APPS. Là, parce que je n'ai pas compris. J'ai lu les documents, mais on ne comprend pas bien ce que c'est. Donc, c'était juste pour avoir une information.
Oui, on va faire. Relativement rapide. En fait, vous le savez probablement, on a tous des emails et le système d'information qui est en cours de finalisation de migration, puisqu'on a changé le réseau, on a changé beaucoup de choses au niveau. On a changé, pas amélioré, mais on n'avait pas pu l'améliorer. On a eu besoin de pouvoir reporter de quelques mois la. Vous ne m'entendez pas ? Je vais faire. Merci le public de me faire signe si vous ne m'entendez pas. Donc je vais essayer d'élever un peu le ton. Google, ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que pour que vous puissiez avoir accès aux emails comme nous tous. C'est simplement le contrat d'abonnement pour nos emails.
Qui remplace le précédent en
fait. Non, c'est une continuité. D'accord. Aujourd'hui, la suite qui est prévue, ce sera probablement Microsoft. C'est ce qui est aujourd'hui le plus performant et le mieux disant économiquement. En attendant, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'email, donc on a reconduit le contrat qui était actif quand nous sommes arrivés.
D'accord, je vous remercie. Voilà, et je vais finir aussi par une question. Donc j'ai vu qu'il y avait un contrat de louage de choses au bénéfice d'un écrivain public qui est arrivé au CCF. D'ailleurs, je l'ai vu dans le magazine. Et je me posais une question, parce qu'on lui loue un local. Et je me posais la question de savoir si l'écrivain public, du coup, faisait des prestations gratuites, puisque c'est vous peut-être qui avez embauché cet écrivain public pour la population, ou si elle faisait des prestations payantes. Parce que comme on lui fait payer un local, je me suis posé la question. Et comme on sait ça être généralement, quand il y a une mise en place d'un écrivain public, c'est plutôt une prestation pour le public, je me posais cette question, parce que ce n'est pas indiqué du coup dans les conventions. Parce que ce n'est pas le même sujet, mais voilà, je voulais savoir, je vous remercie.
Effectivement, nous avons engagé un écrivain public qui... particulièrement dans le Covid, mais même de manière générale, avait des difficultés pour exercer son activité professionnelle auprès des publics les plus fragiles, puisque bien souvent, c'est justement auprès de personnes qui maîtrisent mal la langue, etc. Et donc, elle nous a sollicité pour pouvoir occuper un local que donc nous lui louons. Elle fait payer ses prestations et nous louons le local.
J'avoue que c'est un petit peu bizarre de voir un écrivain public qui fait payer ses prestations dans un CCS qui accueille les plus démunis, on va dire les personnes les plus vulnérables.
Écoutez, vous trouvez ça bizarre. Nous, on estime que services complémentaires. Les gens avaient du mal à, ont du mal à accéder à certaines démarches. Elle offre des prestations, notamment en traduction, que ne peuvent pas offrir les agents du CCAS. De mémoire, je crois que c'est 2 matinées par semaine. Voilà.
3 matinées.
Pour répondre à Madame Lagoutte, la personne dont on parle a cherché pendant très longtemps des locaux dans Nangis pour essayer d'exercer ce qu'elle fait pour rendre service aussi aux gens, vu qu'elle nous prend vraiment un tarif relativement faible pour rendre service. Les loyers étant beaucoup trop chers à Nangis, vous le savez bien, elle est venue solliciter la mairie et on lui a mis entre guillemets à disposition un local. Le montant qu'elle paye, c'est plus une participation aux charges qu'un loyer réel, parce que ça lui permet d'accéder aussi au public qui a des besoins, public qui ne sait pas forcément où la trouver. Aujourd'hui, ils ont un point d'accueil avec des horaires définis et des créneaux.
Parce que du coup, si elle fait payer la prestation, ça ne paraissait pas cher quand même, le prix du local mensuellement, 48 euros hors taxe.
Oui, parce qu'elle ne prend pas cher aux gens.
C'est combien, donc, c'est tout ça ?
Vous posez la question à l'écrivain public.
D'accord.
Ça dépend peut-être aussi du besoin.
Merci. Pas d'autres questions ?
Alors, nous allons pouvoir passer aux délibérations. Donc, les premières concernent les finances, et notamment la modification de la délibération numéro 2021-105. Je vais laisser la parole à M. Lancel.
Alors, merci Madame le maire. C'est une modification de délibération liée à l'emprunt, enfin aux emprunts, puisqu'il y a 2 emprunts dont la ville a besoin. Dans le cadre de cette souscription qui porte sur l'année de 2021 à 2026, nous avons 2 phases d'emprunt, une phase d'emprunt de 5 millions, comme vous pouvez le voir dans le document, qui est prévu sur 25 ans, au taux de 0,99%, 99 points de base, sur un amortissement constant. Cet emprunt est prévu pour répondre à un tas de besoins au niveau des travaux. Vous avez un 2e emprunt qui est aussi sollicité auprès de la Caisse d'épargne pour un montant de 5 millions d'euros. Avec un peu de chance, avec cet argent-là, on pourra réparer la clim, hein, je vous le dis. Les 5 millions sont débloquables dans les 2 ans, c'est-à-dire que si nous en avons besoin, nous les prendrons en franchise de coût. C'est-à-dire que 0,30, mais il n'y a pas de frais complémentaires. 0,30, ça signifie que nous allons verser à la banque le temps que nous débloquions cet argent, 0,30% d'immobilisation. Parce que la banque, bien entendu, elle achète cet argent sur les marchés et elle est contrainte de devoir rémunérer les marchés. Cet emprunt, c'est aussi sur 25 ans, taux fixe de 1,2%. Je vous fais grâce des méthodes de remboursement par amortissement. Avez-vous des questions sur ce point ?
Alors, monsieur Lancel, j'aimerais, madame la maire, j'aimerais intervenir au nom du nouvel élan. D'accord. En sortant de la commission de finances le 30 septembre, madame Lagoutte et moi-même étions plutôt satisfaites. Les documents de travail étaient là, des éléments de réponse avaient été apportés à nos nombreuses questions. Pas toutes quand même, notamment lorsque nous avons interrogé M. Lancel sur l'emploi de la première tranche de l'emprunt, soit 5 millions inscrits sur le budget 2021. M. Lancel nous avait alors répondu que les 2 phases de l'emprunt de l'épargne seraient consacrées au financement du plan pluriannuel d'investissement, PPI, 2021-2026, et que dans la mesure où celui-ci avait été élaboré et écrit, vous avez pris l'engagement de nous l'adresser pour le conseil de ce soir. Ce qui nous a étonné un petit peu, sachant qu'aucune commission cadre de vie, travaux ou autre, n'avait travaillé dessus. Nous avons donc attendu ce document, espérant qu'il allait pouvoir répondre à nos questions, mais que nenni. Première surprise, le PPI, en fait, est à nouveau la production de vos fiches projets déjà transmises en juillet. C'est une véritable liste à la Prévert, nullement travaillée, juste des idées lancées. Jugez plutôt. Vidéoprotection, église, phase 1 et phase 2. Sécurisation, école. Requalification, espace public. Requalification, POIGA. Entrée de ville, libération, phase 1. Liaison douce, amélioration, éclairage public. Réhabilitation, maroquerie. Le tout pour des dépenses estimées à plus de 25 760 000 euros. Et des recettes supposées reçues à Massima pour plus de 9 944 000 euros. Il y aura donc un reste à charge de plus de 15 816 000. Et ces montants pharaoniques ne tiennent pas compte de la valorisation environnementale de la Mante Blanche, de la reprise du patrimoine communal, de la revitalisation des petits commerces, de l'amélioration de l'habitat indigne, qui font partie également de ce fameux PPI. Par contre, pas une ligne, pas une fiche action sur un programme voie. Ceci n'a rien à voir avec un véritable PPI, incluant des phasages, des dépenses et des recettes. Deuxième surprise, et non des moindres, la maquette budgétaire présentée en commission de finances inscrivait bien en section d'investissement des travaux pour 5 millions d'euros correspondant à la première phase de l'emprunt. Oui, mais pour le conseil de ce soir, ces crédits de 5 millions d'euros, au lieu d'être portés sous chacun des comptes comptables de quelques-uns des travaux situés numériques au choix, église, espace public, école, etc., se retrouvent au compte 2111 terrain nu. De quel terrain s'agit-il? Où leur acquisition est-elle retracée dans le soi-disant PPI? En commission de finances, la commission de finances a été faussée. Votre délibération 001 de ce soir est fausse. Ces motifs ou considérants sont fallacieux. Ces articles 1 et 3 ne sont que du prix, puisque vous parlez que du plan d'investissement première phase PPI 2021-2023-2023-2026 pour la deuxième phase. La contraction de l'emprunt en état actuel ne sert pas votre soi-disant PPI, mais un achat de terrain qui reste d'ailleurs à définir en état actuel des dossiers, même si l'on voit ce qui se profile derrière tout ça. Avant la campagne, durant la campagne et encore après la campagne, la ville de Nangy était soi-disant surendettée par notre faute. Mais là, dans quelle situation va-t-elle se trouver? Parce que si vous voulez parvenir au bout des actions projetées, juste en l'état actuel des dossiers, il vous faut encore emprunter combien de millions d'euros? 10, 15, 20? Tout ce qui vient d'être dit et expliqué, nous voterons contre.
Je vous propose de m'écouter, puis comme ça vous pourrez sans doute faire une réponse globale. Madame la maire, le 8 juillet dernier, à notre grande surprise, vous avez proposé la contraction d'un emprunt de 10 millions d'euros pour financer un programme pluriannuel d'investissement. Cet emprunt aurait pu être évoqué lors du débat d'orientation budgétaire le 11 mars dernier, ou encore le 14 avril, lors du vote du budget, ou bien même le 27 mai, avec la première décision modificative. Eh bien non, l'emprunt de 10 millions sort du chapeau le 8 juillet, vous avouerez que cela ne fait pas très sérieux. Vous vous justifiez par les taux bas pratiqués par les banques en ce moment, mais cela fait plusieurs années qu'ils sont bas. Vous indiquez qu'il est nécessaire pour financer un pseudo-programme pluriannuel d'investissement qui ne correspond absolument pas à celui présenté dans le rapport d'orientation budgétaire de mars 2021. Il n'y a donc eu ni présentation, ni débat, ni décision du conseil municipal sur ce fameux programme, comme l'a relevé avant moi Sylvie Galochet. Mais il vous faut quand même 10 millions. C'est donc un chèque en blanc que vous nous demandez. Et dire que vous reprochez au président de la communauté de communes de la Brie-Nangicienne, au vice-président chargé des finances, un manque de précision dans leurs propositions budgétaires, il vous faudrait commencer par balayer devant votre porte. Revenons aux conséquences très périlleuses pour les contribuables d'une augmentation aussi considérable et brutale de l'endettement de notre commune. Dans le rapport d'orientation budgétaire de mars 2021, vous indiquez que l'encours de la dette, capital et intérêt, s'élève au 31 décembre 2020 à 9 025 501 euros. Je fais grâce des centimes. Cela représente, écrivez-vous, une capacité de désendettement de 10,8 années. Je rappelle que la lettre des finances locales, pour ne citer que ce média spécialisé, estime qu'une collectivité qui a une capacité de désendettement supérieure ou égale à 15 ans est déjà en situation critique. Étions à 10,8. Pourtant, vous n'avez cessé de suriner pendant toute votre campagne électorale que notre ville était surendettée à la limite de la mise sous tutelle. Vous faites aujourd'hui la démonstration du contraire et je considère que vous avez donc menti sciemment aux Nangisiens. Mais non seulement vous leur avez menti à des fins politiciennes, mais aujourd'hui c'est vous qui allez vraiment faire courir un très grand danger financier à notre ville. Je m'explique. Toujours dans le rapport d'orientation budgétaire, vous aviez prévu un encours de la dette de 8 396 895 euros au 31 décembre de cette année. Nous ne savons d'ailleurs pas si l'emprunt de 600 000 euros de 2020 y est intégré, mais faisons comme si c'était le cas. Avec la renégociation des emprunts que vous allez nous proposer dans la deuxième délibération, il va falloir ajouter 1 700 000 euros, plus les 5 millions de la première phase de mobilisation des 10 millions. En conséquence, dans 3 mois, l'encours de la dette va bondir à 15 096 895 euros, soit une augmentation de 67%. Cela représente une capacité de désendettement supérieure à 17 ans sur la base de l'épargne brute 2020, au 31 décembre 2021. Même si vous nous expliquez qu'avec tous les emplois que vous avez supprimés, vous avez un peu amélioré la capacité d'autofinancement de notre ville, la capacité de désendettement dépassera largement les 15 ans dans 3 mois. Et ce n'est pas tout. Le 31 décembre 2022 ou 2023, avec la seconde tranche, l'encours dépassera les 18 millions, soit une augmentation totale de plus du double et une capacité de désendettement supérieure à 23 ans. Jamais aucune municipalité à Nangis n'a décidé de prendre un tel risque. C'est pourquoi nous allons alerter la préfecture et la Direction générale des finances publiques sur cette décision que nous allons combattre. Mais ce n'est pas tout. Nous savons qu'aujourd'hui, que les 5 premiers millions d'emprunts n'ont rien à voir avec un quelconque programme pluriannuel d'investissement, comme nous l'a expliqué Sylvie Galochet. Il s'agit en fait d'une première partie du rachat des terrains de la Grande Plaine à l'aménageur ou à l'établissement public foncier d'Île-de-France, je ne sais pas qui en est propriétaire aujourd'hui. Cela n'a pourtant jamais été évoqué devant le conseil municipal, pas même à la dernière commission des finances, mais c'est bien inscrit dans les documents comptables qui nous ont été transmis. Et j'en veux également pour preuve la déclaration que vous avez faite, Madame la maire, concernant le sort réservé à la Grande Plaine le 15 septembre dernier, lors de la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial, qui devait statuer sur la demande d'agrandissement d'Intermarché pour aménager un drive. Auparavant, j'en informe le conseil municipal, où vous êtes opposé à ce projet d'agrandissement d'Intermarché, pourtant limité à sa parcelle. Cette attitude négative vient donc compléter votre refus de voir s'installer Picard surgelé à Nangis, de permettre à Lidl et à M. Bricolage de se déplacer, de s'agrandir. Vous persistez donc dans votre obstination de refuser à notre ville d'améliorer son attractivité commerciale. C'est non seulement un mauvais service que vous rendez aux Nangisiens et aux habitants des communes voisines, mais également aux petits commerçants du centre-ville qui ne peuvent que bénéficier d'une attractivité commerciale renforcée. Ce sont également des recettes fiscales en moins pour la communauté de communes. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'annonce que vous avez faite devant cette commission, et notamment le secrétaire général de la préfecture qui la présidait, que vous veniez de conclure un accord avec Grand Paris Aménagement et Géoterre afin qu'ils renoncent à leur concession de la ZAC de la Grande Plaine en précisant que rien ne se ferait sur ce terrain. Nous avons l'habitude que vous considériez les conseillers municipaux comme quantité négligeable et que l'opacité et le secret soient votre mode de fonctionnement favori. Mais nous sommes étonnés d'un renoncement à un projet qui était aussi dans votre programme.
Nous rappelons ce que vous écriviez à ce sujet. Réviser l'aménagement du futur quartier de la Grande Plaine de façon qu'il devienne un véritable écoquartier pleinement inséré dans la ville. Vous ne vous êtes donc pas engagé à l'abandonner. Mais vous avez décidé en catimini de saborder ce projet travaillé par plusieurs équipes depuis 15 ans, et ce, à la suite d'un vote unanime du conseil municipal en 2006, créant la ZAC de la Grande Plaine. Il y a ici des conseillers de la majorité qui ont voté cette création. Vous avez donc, encore une fois, trompé les Nangiciens et les nombreuses familles qui espéraient beaucoup de ce nouveau quartier pour réaliser leur projet. Aujourd'hui, nous voulons donc connaître les conditions financières exactes de cet accord. Rachat des terrains, les 5 millions d'euros de la première tranche d'emprunt, mais cela ne suffira pas, ils valent plus cher. Remboursement des frais d'études, pénalité pour rupture de contrat. La deuxième tranche de l'emprunt va donc également servir à payer tout cela. Là encore, vous avez tenté de dissimuler cette décision. Vous nous avez menti et franchement, la coupe est pleine. Vous avez dépensé des millions pour que le quartier de la Grande Plaine ne soit pas érigé, alors que notre ville en a besoin et qu'il aurait rapporté au budget des recettes fiscales pérennes sans rien coûter aux contribuables. Ce n'est pas acceptable. Enfin, la question qui demeure et qu'a évoqué Sylvie Galochet, c'est comment, dans ces conditions, vous comptez financer votre pseudo-programme pluriannuel d'investissement en empruntant? Ce ne sera plus possible. En revendant les terrains de la Grande Plaine et en espérant opérer une plus-value sur la vente? C'est de la pure spéculation. En conséquence, non seulement nous voterons contre, mais je peux vous assurer que nous allons exercer tous les recours possibles contre votre décision. Et j'invite très sincèrement les conseillères et conseillers municipaux à bien réfléchir sur le sujet avant de voter. C'est aussi leur responsabilité qu'ils vont engager. Peut-être qu'un vote à bulletin secret serait le bienvenu, par exemple.
Si vous voulez continuer de filmer, Madame Lagoutte, ça pourrait être intéressant, je pense. Ça m'intéresserait, parce que là, aujourd'hui, on a un très beau monologue, très intéressant. Moi, je vais essayer de répondre, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses, donc je vais essayer de faire court, parce que sinon, on va avoir un problème avec le public.
C'est important.
Non, mais d'ailleurs,
c'est important, on peut prendre le temps.
On peut prendre le temps.
Monsieur, il commence par les questions, d'avoir peur que le public s'en aille.
Donc, vous nous parlez des emprunts, très bien. Donc, si je suis bien, Madame Galochet, aujourd'hui, on serait pas en capacité de le faire. Moi, je vais vous poser une question. Notre autofinancement, il était combien quand nous sommes arrivés? Je vais vous aider. Allez. Allez-y, dites-moi.
De mémoire, il y avait 200 000 puisqu'il était passé à la section d'investissement.
Très bien.
Il était dans les 800 000.
Voilà. Donc, comment fait-on pour aujourd'hui faire du désendettement? Monsieur Billot nous dit qu'on est sur 10,8 années quand nous arrivons, ce qui est juste. C'est exact.
C'est vous qui le disiez.
C'est vous qui le disiez. Oui, vous avez raison, c'est moi qui le disais. Donc, concrètement, 10,8 ans. Sauf qu'aujourd'hui, avec la renégociation qui est en cours pour laquelle nous allons voter juste après, bah, vous verrez qu'on n'est plus qu'à 9,83. Et ça signifie simplement qu'on peut emprunter, on va pouvoir emprunter de l'argent pour faire des travaux, mais en plus, on pourra se désendetter plus vite qu'avec votre méthode. Moi, je vais quand même vous poser des questions, parce qu'en fait, on est plusieurs ici. Pourquoi on a autant de travaux à faire? Posons-nous la bonne question. Dites-moi simplement dans quel état, moi je vais en parler, on va en parler. Madame Lyon, par exemple, qui s'occupe des écoles, nous traînons en charge des écoles. Il n'y a pas un toit qui ne fuit pas. C'est vous qui épongez avec les sons? Non, c'est pas vous. Ouais, bon, bien, les travaux, Madame Chute, merci de filmer. C'est plus une voirie, c'est un champ de mie de poule. Qu'est-ce qu'il va y faire? 10 millions de budget pour refaire les travaux des routes, monsieur Billon. Même votre route, même pas très loin de chez vous, c'est pas fait. Comment ça se fait? Il n'y a pas d'argent à Nangis, c'est 50% de taxes foncières en plus que les villes de même strate. Expliquez-nous. Vous savez, emprunter de l'argent, c'est très bien, mais faire de la dette pour du fonctionnement, ça, ce n'est pas bien. Emprunter pour construire, oui, c'est important. Faire la Grande Plaine, madame le maire va le faire. Oui, je vais répondre.
Vous avez eu la parole, s'il vous plaît. Je vais finir.
On va parler aussi peut-être du patrimoine. Monsieur de Maigret, monsieur Roulier, l'église, dans quel état elle est? Vous connaissez le budget pour refaire l'église suite à l'abandon? En 92, il y avait des travaux qui étaient prévus. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'église? 4,5 millions pour remettre en état l'église. Qu'avez-vous fait de cet argent? Il n'y a pas d'argent, monsieur Billou, le problème aujourd'hui. Ça nous fait pas forcément très plaisir d'emprunter, mais on n'a pas le choix. On emprunte. Je vais vous poser une autre question. Vous parliez tout à l'heure d'un 1 850 000 pour l'éclairage. On a combien de points lumineux à Nangis? Ce qu'on appelle les points lumineux, ce sont des candélabres, des lumières. Vous ne savez pas? Non, mais vous avez été élu 20 ans, vous voulez savoir combien il y a de candélabres. Bien, 1435. Vous savez combien on en a qu'il faut remplacer de manière impérative en 2025? 70%. 40% sont au mercure. On ne peut plus les changer. Vous savez combien ça coûte de remplacer ça? 1 200 000. Et oui, 1 200 000 pour préserver la sécurité des Nangiciens, parce que si on a une ampoule qui claque, ça peut être dangereux. Je vais aller plus loin. Vous nous parlez des investissements. Parfait, ok. Vous savez combien ça va nous faire l'économie de passer en LED ou avec des produits beaucoup moins énergivores, donc beaucoup plus environnementaux? Plus de 200 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire aujourd'hui qu'en empruntant et en mettant 6,8 années, entre guillemets, de désinvestissement, puisqu'on va enlever du fonctionnement avec de l'investissement, on va être flat, c'est l'anglais. En gros, ça ne va rien nous coûter. Dans 7 ans, on aura remboursé. Et si on est intelligent et qu'on a emprunté sur 15 ans, à un taux d'1,2%, on va créer la capacité de financement puisqu'on aura moins de fonctionnement. Manifestement, ça vous échappe. Vous savez probablement bien écrire, mais le compter, c'est plus difficile. 5 millions, encore une fois, c'est 5 millions fermes, effectivement. On a des travaux.
Est-ce qu'il y a
on
a juste un tout petit peu plus modeste, s'il vous plaît?
Ah, mais oui, je suis tout à fait modeste. Moi, j'aime beaucoup le site.
Jusque là, c'est relativement facile ce que vous faites.
Ah bon, ben, c'est facile. C'est toujours facile quand c'est pas là. Nous verrons demain. Nous verrons demain dans l'expérience des collèges civiques. Mais les Nangiciens jugeront, vous savez. Il y a une question qui est très sympa à la fin avec un petit cycle, mais j'aimerais bien que les gens relisent les textes quand ils les écrivent aussi. Ce serait drôle, vous verrez qu'il y en a autant de fautes. Enfin, c'est un autre détail. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On fixe simplement un emprunt. Oui, on emprunte pour pouvoir réparer la ville, reconstruire la ville.
Mais c'est faux, puisque les 5 millions sont pour les terrains nus.
Madame Lagoutte, vous avez vu ça, Madame Lagoutte, ça fait un an que nous sommes élus. Vous voudriez qu'en un an, on ait fléché l'ensemble de tout ce qui est à faire, qui n'a pas été fait pendant 20
ans. Pourquoi cet élément nous a été caché en commission?
Il n'y a pas d'élément caché, vous avez eu les fiches, vous avez eu les documents.
Vous ne parlez jamais de ces terrains, je suis désolée.
Mais les terrains, on fait jusque-là.
Mais vous dites n'importe quoi, Madame Lagoutte.
Comment?
Vous dites n'importe quoi. Je dis que les 5 millions servent à racheter les terrains de la Grande Plaine. Je ne sais pas d'où vous avez l'information. Je vous dis, c'est un mensonge.
C'est marqué dans le budget.
C'est ce qui est écrit dans le document.
Non, c'est marqué programme d'investissement.
Non, ce n'est pas marqué.
Page 7.
Lisez page 7.
Alors attendez, on va aller.
C'est comme les 5 000 euros par emploi lors de la communauté de communes.
On va vous donner le chapitre, c'est bien l'indicateur.
Très bien. Donc voilà, aujourd'hui on est capable, en empruntant plus, de rembourser plus vite grâce aux différentes économies que nous avons déjà initiées.
À l'aide de la maquette budgétaire, les 5 millions sont inscrits sur la bonne page. Excusez-moi,
oui.
À la bonne page. Oui. Voilà, excusez-moi, c'est la page 20. Inscription budgétaire des 5 millions, mais bon, hein, c'est pas de 5 millions, il est voilà. 5 millions, 21 ans, terrain.
Vous envoyez le chapitre 21, immobilisation, programme d'investissement 2021.
Non, mais là, on a les documents du Conseil. Là, on est en train de vous parler des documents que vous ne nous avez pas donnés en commission.
C'est la note de synthèse.
On n'avait pas donné pas en commission de
finances. Écoutez, quand on veut donner des leçons, on essaie quand même d'avoir un peu de rigueur dans les documents.
J'ai mis où la rigueur dans les documents? Franchement, dans les documents de la rigueur. C'est vous qui me dites ça. Il n'y a pas un document qui est rigoureux. On tombe sur une mairie où il n'y a rien, en fait. Vous nous donnez des leçons.
Alors, c'est quoi?
On vient de vous le dire, c'est un plan d'investissement, c'est très simple. Investissement, ça dépend simplement.
Si vous avez un plan d'investissement avec la réflexion de l'Église, de la voirie pour la rue de la Libération, vous avez mis la sécurisation des écoles. Ça ne doit pas être, ça ne doit pas figurer en 21-11, c'est rien.
Ça y est,
en 21-300 pour les bâtiments scolaires, etc. Enfin, vous nous présentez une maquette qui est le contraire. Madame Lagré, je vous en prie, vous êtes technicienne, restez à la place. Voilà.
Madame Lagré, j'ai passé votre temps à nous expliquer la 21-38, la 22-32.
Mais c'est votre
aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, je vous apporte une réponse technique, Madame Lagré, politique, et Madame Lagré, vous apportez une réponse technique. On vous dit, on a un budget de 5 millions en 2021-2026. C'est indiqué, vous nous dites que ce n'est pas la bonne ligne. Moi, il n'y a pas de problème, Madame Lagré.
Éclairez-nous.
Bonsoir. Effectivement, nous avons un programme pluriannuel d'investissement. Dans ce programme pluriannuel d'investissement, il y a deux financements. Il y a deux fois 5 millions. La première part du financement, dans la note de synthèse, page 7, qui sera annexée à l'ADM, puisque nous devons annexer la note de synthèse à l'ADM, et c'est le document qui a été étudié en commission de finances. Effectivement, il y a marqué page 7, programme pluriannuel. En aucun cas, il a été indiqué travaux. Nous avons deux financements. Un de 5 millions qui sera débloqué sur 2021 et un de 5 millions qui sera débloqué par phase en fonction du programme pluriannuel d'investissement des travaux et en fonction des subventions que nous pourrons encore aller chercher. Pour le moment, sur cette première phase, nous sommes sur du 21-11, page 7 de la note de synthèse. Programme pluriannuel, en aucun cas, il n'a été noté travaux.
Encore une fois, le PPI ne mentionne pas de terrain. Vous n'avez aucune fiche action où vous avez un PPI sur des terrains. Encore une fois, je vais vous les lister, je vais vous les lire.
Très bien,
la sécurisation est pas.
Et en commission finance, nous n'avions que 14 pages et c'était pas indiqué cette écriture comptable. Alors arrêtez,
alors,
franchement, c'est des mensonges.
Oui, c'est des mensonges, vous avez raison. Mais alors, après, avec 5 millions, vous voulez qu'on achète quoi en fait? Parce que vous aurez voulu savoir qu'on achète des terrains, donc lesquels?
Certainement les terrains de la Grande Plaine.
Pour qu'on les achète, il faudrait qu'ils soient à vendre. Elle est bien placée pour savoir s'ils sont à vendre ou pas à vendre.
Dites-nous pourquoi elle est placée là, alors.
Parce qu'il faut bien flécher quelque chose, je pense, non, madame le maire?
Non.
Enfin bon, tiens.
D'accord. Oui, oui.
Alors, monsieur Lévy nous a envoyé une question. Normalement, les questions diverses, on les étudie à la fin du conseil. Mais finalement, vous l'avez lu. Donc, je vais donc. Non, mais. Oui, bah, laissez-moi la parole si vous voulez que je vous réponde.
Oui, je vous explique quand même.
Donc, non, mais vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Je me débrouille. Je vous remercie. Sinon, vous allez aussi nous expliquer pour la résidence personnes âgées. Vous avez, puisque vous allez sur ce terrain-là, allons-y, monsieur Billou, vous avez signé alors que. Le L21-22-22, je ne sais quoi, ne vous y autorisait pas un accord avec l'Ogéris que vous n'avez pas soumis à délibération du conseil municipal. Alors, les leçons, ça va. Donc là, pour la Grande Plaine, je vous réponds. Vous parlez de la CDAC et vous laissez entendre que Intermarché avait présenté son dossier uniquement pour un drive et un agrandissement modeste puisqu'il restait sur sa parcelle foncière. L'honnêteté serait de dire, certes, un drive, mais aussi l'augmentation de la surface de vente de 50%. On passe de 2000 à 3000 m². Ça me semble quand même être une augmentation sacrément importante. Finalement, je ne sais pas si votre ami M. Guyot, qui siégeait à cette CDAC, vous l'a dit, Intermarché a retiré son dossier. Donc la CDAC ne s'est même pas tenue. Vous laissez entendre qu'on s'est opposé à l'installation de Picard surgelé. C'est faux. D'abord, on ne les a jamais rencontrés. On a eu des gens qui sont venus nous voir pour installer des commerces à Nangis-Actipaule. Or, le plan local d'urbanisme, signé de votre main, prévoit à Actipaule une zone industrielle et artisanale. Donc, nous leur avons simplement expliqué qu'à Nangis-Actipaule, il n'était pas possible, suivant le plan local d'urbanisme de la ville de Nangis, voté par vos soins, d'installer des surfaces commerciales. Mais si Picard a envie de s'installer à Nangy, il y a d'autres endroits à Nangy. Il y a des friches, il y a des espaces en centre-ville qui sont disponibles. Donc, vous mentez en laissant croire qu'on s'oppose à l'installation de Picard surgelé. C'est faux. Je continue. Cette attitude négative vient donc compléter notre... le refus à Lidl de se déplacer. Effectivement, Lidl avait le projet de s'installer en face de McDonald's. Or, il ne vous a pas échappé que le préfet de Seine-et-Marne l'année dernière signifié sa volonté de ne plus voir de terres agricoles transformées en surface commerciale, ce qu'ont très bien entendu les aménageurs de la Grande Plaine. Et une entrée de ville avec Lidl et à la place de l'ancien Lidl une friche, non, ça n'est pas notre objectif. Donc cette surface-là, l'ensemble de la parcelle en face de McDo, n'était plus voué, déjà dès le début des discussions avec Grand Paris Aménagement, à des surfaces commerciales, conformément à ce que nous avait signifié le préfet de Seine-et-Marne. Je continue. Vous dites que nous nous obstinons dans notre refus d'améliorer l'attractivité commerciale de Nangy. Un mauvais service pour les Nangiciens, pour les habitants des communes voisines. Alors, on est entre nous, on se le dit. Moi, que Nangy soit le centre commercial de toute la communauté de communes et cumule les logements sociaux et les grandes surfaces, non, ça n'est pas notre ambition. Je continue.
Et l'accession
à... un mauvais signal pour les petits commerçants du centre-ville. Parce que vous croyez vraiment que les petits commerçants du centre-ville, ils auraient été heureux d'apprendre que grâce à l'augmentation de 50% de la surface commerciale d'Intermarché, qui allait pouvoir développer son nouveau concept, comme un marché avec des produits primeurs beaucoup plus attractifs, avec de la restauration faite sur place, etc. Vous croyez vraiment que c'était ça qui allait faire que les gens allaient aller davantage au centre-ville? Et je vais vous apporter quelque chose que vous savez très bien, mais que vous avez omis de dire, c'est que lorsque nous nous sommes réunis, il y avait les services de l'État, en l'occurrence la DDT. Et la DDT, le service de l'État, a exprimé son avis défavorable à l'extension d'Intermarché. Elle était même surprise qu'on soit en commission, parce qu'elle craignait que la ville de Nangy y soit favorable, ce qui aurait été complètement à l'encontre du soutien de l'État que nous avons dans le programme Petite Ville de Demain. Je continue. Lors de cette commission, j'ai effectivement précisé, puisque tout l'argumentaire d'Intermarché, avant qu'il ne retire donc son dossier, s'appuyait sur l'extension de la ville et les 600 logements promis au quartier de la Grande Plaine. J'ai donc expliqué qu'après un an de très longues discussions avec le groupement d'aménageurs, avec GPA et avec Géoterre, pour essayer d'améliorer ce projet, nous avions fini par nous résigner à l'abandonner tel qu'il était. Donc l'argumentaire d'Intermarché avec les 600 logements ne tenait plus. Cette information était toute fraîche, puisque nous venions de rencontrer la veille, je crois, le groupement d'aménageurs, et nous avons maintenant 9 mois pour continuer à discuter avec Grand Paris Aménagement et avec Géoterre pour nous mettre d'accord sur les conditions de sortie du programme de la Grande Plaine. Et moi, j'ai envie de vous poser une question, monsieur Bidou. J'ai là avec moi les chiffres pour les premières familles qui comptaient s'installer. Alors, pour l'information du public, il y avait environ 20% de familles seine-et-marnaises et 80% au-delà des limites de la Seine-et-Marne. Aux Nangiciennes, 3 peut-être ?
Avant de parler, que l'on prie de
les... On a des comptes à rendre aux Nangiciens. On est élu, on est élu par les Nangiciens et on a des comptes à rendre aux Nangiciens. En tout cas, c'est notre conception. Il y avait 63 enfants à scolariser dans les écoles primaires de la ville, peut-être là à la rentrée du mois de janvier 2022, si nous n'avions pas mis un stop dès le mois de septembre l'année dernière. Comment auriez-vous fait ? Dans quelle salle de classe vous les auriez mis ? 63 uniquement uniquement sur les premiers lots, uniquement sur ceux qui étaient sous promesse de vente. On ne parle que de cela, on ne parle même pas de la totalité de la tranche 1 de la Grande Plaine. Les aménageurs, je crois qu'on en a déjà parlé ici, les aménageurs étaient stupéfaits. Ils nous ont dit que vos propos étaient « l'école, j'en fais mon affaire ». Entre ça et la station d'épuration, nous avons...
De propos. Comme vous avez
mais de toute façon,
de toute la négociation avec les aménageurs, effectivement, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Je vous rappelle...
Mais les enfants étaient bien scolarisés, monsieur Billou. Et vous n'avez pas répondu. Dans quelle école les auriez-vous mis?
Vous avez dans
Dans quelle école les auriez-vous mis, monsieur
Billou? On donne la parole pour parler, monsieur Billou.
Dans quelle école les auriez-vous mis?
Mais c'est pas...
Encore une fois, si vous voulez bien...
Répondez, monsieur Billou.
C'est parler. Vous avez une étude des modes
de la parole
extrêmement détaillée. Et vous avez une étude de capacité d'accueil qui indique quels sont les délais, les locaux qui sont disponibles, les locaux qui sont transformables et les capacités de construire en agrandissant l'école du Château et l'école du Rossignol.
Dans tout le dossier de la Grande Plaine, il n'y a aucun chiffrage, monsieur Billou, de ce que vous avancez. Mais on va demander à madame Lyon. Madame Lyon, combien y a-t-il de salles de classe qui sont vides dans les écoles de Nangy?
Je ne connais pas. Par contre, je sais que les BS sont à 30 au Roche. MS est 30 sections.
Mais ça n'a rien à voir avec
ah, bah si,
mais donc, l'information importante, c'est qu'il n'y a aucune salle de classe.
Il y a deux salles de classe. Il y a deux salles de classe qui sont vides à l'école des Roches.
Non, elles
vous
ne
avez,
sont pas vides, monsieur
Lyon.
Non, c'est faux, vous dites.
Elles sont utilisées par l'accueil de loisirs.
Mais oui. Donc elles ne sont pas vides.
Ce sont des salles de classe.
Mais elles sont utilisées par l'accueil de loisirs. Si vous y mettez des salles de classe, où est-ce que vous mettez les enfants de l'école de loisirs?
Ça ne sert quasiment plus à rien.
Et
dans l'éducation nationale, vous avez dit qu'elle ne s'intéressait. Il y a des capacités aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas prévu de créer un cinquième groupe scolaire. Mais par contre, toutes les études montraient la nécessité de construire un deuxième collège, et de ce point de vue-là, j'aimerais bien savoir ce que vous avez entrepris.
Mais le collège,
s'il vous plaît, qu'est-ce que va coûter aux contribuables la sortie du projet?
Alors, je vais continuer à répondre.
Qui va payer les terrains, les études?
Alors, on va prendre rapidement. Pour le moment, c'est une négociation, monsieur Biro. Vous savez ce que c'est, une négociation? Quand vous avez arrêté le centre-ville, quel était le montant que vous avez fait perdre aux Nangisiens? Plus de 10%. Sachez que nous, aujourd'hui, on est largement en dessous. Oui, le centre-ville, vous savez le projet... Quand
vous savez les pavés de granit qui sont en train de mourir sur des palettes là-bas?
Le centre-ville, vous savez, là où il y a la poste. Vous voyez, là, il y a une
place. Ce ne sont pas les nôtres.
Non, mais justement,
non, mais c'est vous qui avez arrêté.
Je vous rappelle que c'est le préfet qui a cassé le marché.
Non, attendez, vous auriez pu continuer, vous auriez pu faire des choses, et vous avez décidé d'arrêter. Il y a eu un coup d'environ 260 000
places de stationnement en centre-ville.
Mais monsieur Biou, si vous voulez du stationnement, c'est votre choix, mais je pense que les Nangisiens ne sont plus forcément obligés de subir ce genre de nuisance en centre-ville. Ça, c'est des projets qu'il faudra que nous évoquions. Mais je vais en parler encore un petit peu. Aujourd'hui, on est en négociation. Pour le moment, vous dites, on va racheter, on arrête tout. Rien n'est fait. On peut parfaitement s'entendre avec les porteurs du projet et faire des aménagements qui correspondront aux attentes des Nangisiens. Mais quand même, pour répondre sur un autre point, combien nous coûtent vos emprunts toxiques? La dette, combien la pénalité, c'est 1 700 000. 1 700 000. Madame Galochet, merci de nous avoir donné les pièces que vous aviez négociées au mois de juin. Malheureusement, vous n'avez pas été élu. Donc, c'était 2,2 millions, les négociations qui ont été les nôtres, ont fait descendre jusqu'à 1,7 million. Je pense que quand on a 1,7 million de pénalités de remboursement...
Là, c'est 1,7 million sur 3.
Oui, mais malgré tout, il y a 1,7 million à payer. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on n'est absolument pas là pour perdre de l'argent auprès des Nangisiens. Loin de là, vous avez démontré tout à l'heure que vous pouvez les identifier plus vite grâce aux économies qui étaient les nôtres que ce que vous proposiez. Et en plus, on aura un certain montant pour pouvoir faire les travaux qui sont nécessaires. Je ne parlais pas de la piscine où il faut ouvrir le robinet doucement, sinon on inonde les rives.
Dans votre question, vous aviez dit « Nous comprenons mieux votre empressement à refuser à la CCBN la construction sans siège. » Là encore, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que sur l'emprise de la Grande Plaine, et pour votre information, les terrains sont toujours possession de l'EPFIF, de l'établissement public foncier d'Île-de-France. C'est l'EPFIF qui est propriétaire des terrains. Et bien sûr que nous allons réfléchir à ce que nous voulons faire. Le lycée, il va fêter ses 30 ans, il a toujours aucun équipement sportif. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu d'initiative de la ville. La région est prête à subventionner, mais la région, elle ne monte pas les projets. Il n'y a jamais rien eu. Donc oui, des projets, on en a plein. Il n'y a pas de souci. Et des terrains sont donc disponibles, y compris pour un siège de communauté de communes.
Il y avait un terrain qui était prévu.
Pour la maison des associations, non, effectivement, on considère absolument pas que ce soit une priorité. C'était dans votre question, hein, vous abandonnez la maison des associations. Ben oui, en fait, en termes de priorité, je ne sais pas si vous étiez là dimanche. Mais dimanche, la fin du concert, moi je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le hall avec le balai. Parce qu'il y avait 2 cm d'eau qui s'échappait au sol dans les toilettes hommes. Donc ça nous semble prioritaire, comme les écoles. Je peux même rajouter, on a même reçu un courrier, et ça Madame Lagoutte, elle est forcément au courant, puisque Madame Lagoutte était vice-présidente en charge de la petite enfance à la communauté de communes. Nous avons été alertés par la communauté de communes sur l'état des locaux qui servent au centre de loisirs, avec des photos. Je ne sais pas si vous l'ont envoyé.
Vous allez vous apercevoir.
Mais vous savez, c'est pas en un an que ça ne dépend en un an que ça se dégrade. Non, mais là, on ne parle pas de décoration. On ne parle pas de peinture, on ne parle pas de décoration, monsieur.
Donc,
oui, la maison des associations, nous l'avons abandonnée parce que ça n'était pas du tout une de nos priorités. On a suffisamment de bâtiments pour la faire ailleurs. Oui, d'ailleurs, il y a des beaux bâtiments sur le stade. On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, de toute façon, contrairement à vous qui aviez signé un accord avec l'Ogéris, alors que vous n'en aviez pas l'autorisation et que vous ne l'avez pas soumis, vous ne l'avez pas soumis à la délibération du conseil municipal, lorsque nous aurons conclu l'accord avec les aménageurs, évidemment, ça sera soumis au vote du conseil municipal.
Toute petite idée de ce que ça va coûter. Non ? Avant de vous lancer dans une négociation. Non ? L'EPFIF n'a pas pour vocation à garder les terrains en sa propriété.
Mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est nous qui discutons avec l'EPFIF.
Il y a même une convention qui dit qu'à un moment donné, la commune sera obligée de les racheter.
Non ?
Vous, bien sûr.
Mais non, puisqu'ils nous suivent. Ils nous suivent sur des réaménagements, ils nous suivent sur d'autres projets, monsieur Billou. Donc ils ne nous imposent pas de racheter les terrains.
Aujourd'hui, monsieur Billou, on n'est absolument pas obligé de racheter les terrains. Si on le souhaite en décembre 2022, effectivement, on pourra le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le souhait des PIF. Aujourd'hui, ils ont plutôt envie de nous accompagner sur un vrai projet. Parce que 600 logements, encore une fois, et je parle aussi pour le public, c'est 600 logements sans infrastructure sportive, sans voirie, sans école, juste avec des blocs.
Sans voirie.
Attendez, laissez-moi finir peut-être. Je parle des voiries, c'est-à-dire les raccords. Aujourd'hui, une station d'épuration qui est déjà en suractivité, on faisait comment 30, mais c'est dans les, c'est dans les textes. On avait passé pendant 30 jours la capacité de la station. Aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas là pour casser du projet. On est là pour améliorer la vie des non-giciens. Regardez simplement ce qui a déjà été fait en un an. J'aurais apprécié que vous ayez pu le faire en 5. Juste un point quand même, parce que c'est quand même la communauté de communes, mais à un moment, il faut que je réagisse sur la communauté de communes. On nous dit que le terrain, il n'y a pas de terrain. Effectivement, vous aviez prévu d'offrir le terrain à la communauté de communes pour mettre le siège. Je parle sous le contrôle de certains élus de la communauté de communes qui sont plus hauts. Mais ça n'a pas empêché la communauté de communes quand même de faire un début d'étude qui nous a coûté combien, M. Billou, pour être abandonné, parce qu'en fait, c'était plus faisable. 467 000 euros, c'est ça, à la communauté de communes, d'argent perdu. Ah oui, c'est vice-président, oui, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on vient de récupérer, vous voyez. On va parler tout à l'heure probablement aussi de l'effet logistique. Et puis, non, mais j'ai besoin quand même que les gens entendent la situation. On nous reproche des choses. Ils ont mis les terrains à vendre pendant des années. On se retrouve avec des terrains aujourd'hui qui sont, entre guillemets, sous l'eau, avec des évacuations de flotte qui ne sont pas forcément en phase avec les besoins, des problématiques de rampes d'incendie pour faire peut-être des travaux pour assurer une défense incendie. Je vous parle même pas de la giration qui va nous coûter 70 000 euros de plus parce que ça n'a pas été prévu correctement. Et pourtant, vous étiez aux affaires, pardon Madame Lagoutte, mais vous étiez tous là pour voter. Alors voter les choses, c'est bien.
Les ouvrages étaient évidemment 77 ou bon.
Oui, on peut pas aller là-bas.
Non, mais
c'est sceptique, assez ouvert. Aménagement 117, mais effectivement, mais qui l'a recruté à Aménagement 117? Ça a bien été voté. Eh bien, vous, c'est oui. Eh bien, oui, c'est vous.
Oui,
bon, on peut passer au vote.
Allez, à voter.
Alors, qui s'oppose à cette première délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors, délibération numéro 2.
Deuxième délibération sur le refinancement de 3 emprunts par la Caisse française de financement local. Monsieur Francel.
Merci, Madame le maire. Donc, on va essayer de faire court sur celle-ci. Nous arrivons, nous constatons un certain nombre d'emprunts. Monsieur Billou l'a évoqué tout à l'heure, près de 10 millions. On a, plus de quasiment 6 millions d'emprunts dits toxiques, c'est-à-dire des emprunts qui sont indexés sur des produits qui peuvent avoir une volatilité relativement forte. Et nous arrivons et nous renégocions. Madame Delocher nous aide fort gentiment, merci beaucoup. Elle nous fournit des papiers puisqu'ils avaient commencé une négociation au mois de juin, bien qu'on était en campagne électorale, mais ça c'est un autre sujet. Et, si c'est mal. Et là nous arrivons.
Jusqu'au mois de juin.
C'est bien, vous félicitez. C'est bien, au moins vous avez. Aujourd'hui, donc, nous sommes obligés de réemprunter et de renégocier cet emprunt pour figer les taux. Vous avez tous vu ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. On a des taux directeurs qui vont très très probablement, et Mme Biologie, je ne pense pas qu'elle nous dira le contraire, augmenter. On voit les prix d'énergie qui font des bons. Ça va conduire à une certaine inflation. Inflation qui, bien entendu, va se répercuter sur les taux directeurs et l'absence de rachat de certaines créances. Donc, une inflation qui devrait être aux alentours des 2%, si on prend les 2%. Prévu, plus les indexations, on va se retrouver avec des emprunts qui pourraient nous coûter 4-5%. Je pense que je ne suis pas totalement faux là-dessus. Donc nous avons négocié et nous avons figé le taux à 0,74%. Mais la contrepartie, bien entendu, c'est une pénalité qui est de 1 700 000. Néanmoins, avec cette pénalité réintégrée, on reste dans une capacité de remboursement plus favorable à terme de cet emprunt. Avez-vous des questions, Mme Delocher?
Non, mais je vais faire une explication de vote au préalable, si vous le voulez bien. Alors, pour rappel, au Conseil municipal du 30 novembre 2020, j'étais intervenue lors de la mise au vote de la délibération numéro 150 relative à la contraction d'un emprunt de 600 000 euros auprès de la Caisse d'épargne. Lorsqu'avec la précédente équipe, j'avais commencé à élaborer le budget de 2020, il avait été également inscrit un emprunt pour un programme d'investissement, notamment de voirie. À l'époque, il avait été prévu non pas 600 000 euros, mais 1 million d'euros. Ceci devait toutefois être complété par une action de refinancement de 4 emprunts, dont 2 Dexia, que je qualifierais, oui, Dexia pour simplifier les choses, 2 emprunts toxiques hein, sur les 4, il n'y a pas tant que ça. En effet, vous savez bien qu'à l'époque, Dexia, malheureusement, a présenté des tas d'emprunts toxiques à des tas de collectivités qui se sont engagées. Dans ce cursus très très compliqué.
Juste un tout petit point, Mme Galocher, un tout petit point, pardon, j'ai vérifié quelque chose au Sénat en 2015, j'ai vu passer un amendement, apparemment, je ne suis pas sénateur, hein, mais où on aurait pu renégocier en 2015.
Mais pas nous.
Mais pourquoi mais pas vous?
Parce que nous ne correspondions pas
à la strate.
Non, à la strate.
À quoi?
Et puis, oui, à la catégorie d'emprunt et à la strate démographique. Parce qu'il n'y avait que les grosses collectivités à l'époque qui, après des actions au tribunal d'ailleurs, avaient pu obtenir gain de cause et avaient effectivement pu renégocier ces emprunts.
Je vous fournirai les pièces, mais je suis surpris parce que, bien sûr, vous le dites bien, je me suis renseigné, et il s'avère qu'on aurait pu appartenir. Alors, je vous dis ça au conditionnel, peut-être que. Mais c'est dommage parce qu'on aurait pu renégocier à l'époque et avoir des taux beaucoup.
Il y a eu d'erreur
parce qu'on avait
déjà contacté évidemment. Dexia l'a suivi ensuite et ça a toujours été répondu.
Je note, mais néanmoins, je me suis mentionné.
Alors, donc, en effet, pour la première fois depuis l'histoire des emprunts toxiques, la suivi au droit de Dexia acceptait enfin le principe de leur refinancement pour les communes comme l'Angers. C'est ainsi que le 29 juin 2020, la SFIL nous faisait une proposition qui, bien sûr, n'a pas pu être poursuivie par notre équipe. Le refinancement portait donc sur 4 emprunts, c'est pas nous qui les avons, vous avez sollicité, bien évidemment, mais la première proposition commerciale de la SFIL, ce refinancement portait donc sur 4 emprunts avec un taux de refinancement de 0,41 si on faisait une durée d'endettement de 20 ans ou de 0,55 pour une durée de 25 ans. L'indemnité actuarielle proposée, mais qui n'a pas pu être travaillée, puisque effectivement, du 20 juin au 3 juillet, vous savez ce qui s'est passé, on n'a pas pu les rencontrer, donc elle était d'un peu plus de 2 100 000 euros. Ce 30 novembre, M. Lancel, vous avez répondu qu'un audit financier n'était pas favorable au remboursement de 2 emprunts, ça je le prends du compte rendu, mais que vous alliez quand même vous orienter vers une renégociation aussi. Quant à la commission de finances du 5 juillet, vous avez présenté, enfin au bout de 6 mois, la proposition de refinancement de la SFIL. J'ai été plus que surprise de voir que celle-ci ne portait que sur 2 emprunts et que le taux d'intérêt était de 1,50, c'est-à-dire 3 fois plus, hein, pour un nouvel échelonnement de dette sur 20 ans. Alors, devant mes explications, vous avez eu la sagesse de retirer la délibération prévue au Conseil du 8 juillet. Vous avez donc repris vos négociations avec la SFIL, ce qui nous amène à la délibération numéro 2 de ce soir. La proposition de la SFIL est nettement meilleure, sans atteindre quand même celle qu'elle avait faite en juin 2020. Je peux le regretter, mais il faut quand même s'en satisfaire, et c'est pour cette raison que nous voterons pour.
Je vous en remercie. Vous noterez quand même que quand il y a des choses qui peuvent être améliorées et que vous les proposez, bien sûr, nous allons en ce sens-là. Mais je préciserai quand même que la pénalité est à 1 700 000 là où elle était à 2 100
000. Nous n'avions pas entamé de négociation.
J'entends. Mais c'est 400 000 de moins.
Voilà. Mais depuis bon. Que vous avez travaillé.
C'est ce qu'on essayait de faire, madame Le Rocher. Voilà. Vous mettez votre main.
Alors, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Troisième, la fusion du budget caisse des écoles avec le service éducation sur le budget principal.
Excusez-moi, j'ai parlé beaucoup. Donc, vous avez la note explicative afin de faciliter et d'optimiser la gestion du budget concernant les écoles de Nangis. Actuellement représenté par le budget caisse des écoles, il est décidé d'intégrer ses besoins budgétaires au sein du service éducation du budget communal dès le 1er janvier 2022. Le budget d'éducation disposera d'un code service budgétaire de type C2 caisse des écoles, décliné pour chacune des écoles, permettant ainsi une traçabilité analytique nécessaire au bon suivi des opérations budgétaires. A ce titre, il n'y aura pas de vote de budget en 2022 sur la caisse des écoles, permettant ainsi, conformément à l'article L212-10 du Code de l'éducation, au bout de 3 ans d'inactivité, de dissoudre définitivement le budget caisse des écoles et d'autoriser le comptable public à procéder à toutes les opérations de liquidation extra-budgétaire afférentes. On n'entend rien. Bon, est-ce qu'on a moyen d'augmenter un peu les haut-parleurs ou pas? Ça vous va comme ça? Je reformule. Donc, on va fusionner les budgets caisse des écoles avec le budget communal. C'est la cible, de telle sorte que toutes les opérations comptables et budgétaires nécessaires à la fusion de ces deux budgets seront effectuées sur demande et en concertation avec le Trésor public, permettant également la reprise de l'actif et du passif du budget caisse des écoles sur le budget principal. Le Conseil municipal donne une autorisation comptable publique, donc d'effectuer le cas échéant les opérations extra-budgétaires incluant le prélèvement au 1068 en fonction des besoins. Avez-vous des questions?
Oui.
Madame Lagoutte.
Merci. Donc, cette délibération nous a été présentée en commission des finances. Et nous avons une question qui nous paraît fort importante sur la gestion paritaire de ce budget. Parce que pour le moment, donc, les parents d'élèves en caisse des écoles votent le budget de la caisse des écoles. Et là, du coup, ça va faire partie du budget municipal. Donc, nous voudrions savoir si vous comptez faire une gestion paritaire avec les enseignants et les parents d'élèves afin qu'ils puissent travailler avec vous les orientations du budget, puisqu'ils font pour le moment des propositions, donc ils pourraient continuer à le faire.
Et si jamais vous le faites, que ce soit inscrit bien entendu à cette délibération, pour qu'on puisse continuer à se concerter avec les parents d'élèves et les enseignants sur ce budget particulier.
Alors, quelques précisions. Vous parlez paritarisme. Les enseignants n'ont jamais voté le budget des écoles.
Oui, mais ils font partie...
Non. Non, ce sont uniquement les parents. Les enseignants sont bien évidemment concertés. Ils le seront tout autant. Mais les enseignants n'ont jamais été associés au vote caisse des écoles. Ensuite, il s'agit d'un budget communal. On n'a pas le droit. Ça n'est pas réglementaire. À partir du moment où c'est intégré au budget ville, c'est voté par le conseil municipal.
Oui, mais il peut y avoir un
pour l'information de tous, le fonctionnement caisse des écoles, c'est une survivance du 19e siècle. Les caisses des écoles existaient pour que les familles qui avaient les moyens donnaient à la caisse des écoles pour prendre en charge les frais de scolarité des indigents. Voilà. Depuis, les choses ont évolué. Donc, la ville supporte à 100% le fonctionnement de la caisse des écoles. Il n'y a pas de mécène qui participe au financement. Il n'y a pas de nangiciens qui voudraient... Voilà. C'est uniquement du budget ville. Donc, ça ne servait à rien d'alourdir le fonctionnement administratif de la commune en laissant survivre cette caisse des écoles qui est complètement anachronique. Et on en a déjà parlé en caisse des écoles notamment, et on en a déjà parlé de mémoire lors du vote du budget. On a déjà expliqué que c'était notre intention d'intégrer complètement le budget caisse des écoles au budget éducation, au budget ville. Ça n'empêche absolument pas de travailler avec les enseignants et de se concerter avec les enseignants et avec les parents d'élèves. Il y a les conseils d'école dans chacune des écoles avec des représentants des élus, avec des représentants des parents d'élèves et avec des enseignants. Il y a aussi un comité consultatif éducation. Il y a plein d'organes pour échanger, discuter, et ça n'est pas parce que la caisse des écoles ne sera plus active qu'il n'y aura pas d'échange et de discussion avec les enseignants comme avec les parents d'élèves.
Donc, je vous remercie de votre réponse. Du coup, pourrions-nous l'inscrire dans un des articles en disant que la concertation et les discussions continueront avec les parents d'élèves ?
Non. Mais non. Non, ça ne va pas dans une délibération. Ça ne se met pas dans une délibération.
Pourquoi pas ? Ça peut être participatif.
Et parce qu'on ne fait pas de la fantaisie, Madame Lagoutte.
Ah oui, mais là, vous prenez un engagement, donc ça se
fait. Mais je prends un engagement, je suis enregistrée, et si je ne m'y tiens pas, je compte sur vous pour me rappeler à l'ordre.
Je pense qu'on va s'abstenir vu que vous ne voulez pas l'indiquer sur l'article.
On ne s'abstenir. Peut pas, ma mère.
Mais si, on peut tout faire.
Madame Lagoutte, le vote du budget est une compétence du conseil municipal.
Oui, tout à fait, mais on peut très bien dire qu'on continue la concertation sur ce budget avec les parents d'élèves et les enseignants. Voilà. Et on va s'abstenir, ce n'est pas grave.
Alors, qui est contre ce projet de délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Oui. Quatrième délibération qui concerne la fusion du service médiathèque du budget communal avec le budget activité culturelle. Monsieur Lancel.
Merci. Même mécanique. En fait, la fusion du service médiathèque du budget communal est pour nous une façon d'avancer dans le bon sens sur le sujet de la culture. Donc, afin d'être bien sûr cohérent avec la mise en place de la carte culture que nous avons mise, qui a été initiée récemment sur le budget activité culturelle, on a donc fait quelques tarifs qui sont aussi attractifs. Nous avons fait le choix de pouvoir regrouper l'ensemble de ce qui était culturel au sein d'un même budget. Donc, à ce titre, la médiathèque bénéficiera du même régime de TVA que le budget activité culturelle, puisque l'achat de la carte culture donne à la fois accès au spectacle, aux séances de cinéma et à la médiathèque, en ne faisant qu'un seul service culturel unique. chose que nous avions évoqué lors de la commission des finances. Par conséquent, une décision modificative va être prise ou est prise à la fois sur le budget principal et sur le budget activité culturelle afin de basculer les crédits disponibles à ce jour sur la médiathèque et la régie de recettes du service culturel intègre dorénavant dans la vente de billetterie l'accès à la médiathèque. Avez-vous des questions ? Madame Lagout.
Merci. Donc en effet, quand vous nous avez présenté cette délibération, nous avons compris la fusion du service concernant la TVA, puisqu'en effet, pouvoir récupérer la TVA sur les produits médiathèques, ça peut en effet permettre une recette supplémentaire au budget de la commune. Par contre, vous nous avez aussi annoncé que du coup, il y aurait qu'une directrice qui gérerait à la fois le service culturel et la médiathèque. Et à notre avis, nous ne pensons pas que ça serait une bonne chose, que déjà être bibliothécaire, c'est vraiment un métier différent d'être directrice de la service culturel. Donc là, je pense par contre qu'on va perdre du fait de cette fusion. Donc du coup, on s'abstiendra sur cette délibération.
Ok, je prends note que vous allez vous abstenir. Je rappellerai quand même juste que depuis des années, ou des mois au moins, il n'y a peut-être plus de directrice de médiathèque.
Pas donc, des années, heureusement.
Ah, malheureusement, si, madame. Donc ça veut dire que la notion de directrice de la médiathèque était quand même assurée par des intérims, et qu'aujourd'hui, avoir un vrai centre culturel pour Nangy, mais peut-être aussi pour être moteur sur la communauté de communes, parce qu'on a aussi cette vocation-là, on est quand même on est un pôle phare pour la communauté de communes, ça peut être à un sens intéressant.
Oui, mais c'est pas le même métier.
C'est parfait, c'est vrai, le même métier, mais là aujourd'hui en plus on est un petit peu en dehors de la délibération. Donc j'entends très bien, vous vous abstenez, pardon, votre groupe s'abstient parce que on n'est pas tout à fait d'accord sur les notions de métier.
Non, c'est pas seulement une notion de métier, c'est déjà diriger une médiathèque, c'est effectivement un métier, ce sont des grades, c'est une formation.
Je vous arrête, M. Billou, parce que là, on n'est pas dans le cadre de la délibération. Non, la délibération.
Vous l'entérinez.
Non, la délibération porte sur les fusions de budget. Si vous avez une question sur les ressources humaines, la gestion des ressources humaines et la direction, c'est autre chose. Là, on est sur la fusion des budgets.
Donc, qui en commission des finances,
la fusion des budgets, entérine la suppression d'un poste de direction.
Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne le vote de la DM2 du budget communal.
Bien, comme nous l'avons évoqué, on propose au conseil municipal de voter la DM2, décision modificative numéro 2 2021 du budget de la commune, qui s'équilibre, comme suit. Juste une petite précision, nous avons fait le choix, et nous l'avons déjà évoqué, que nous faisons des forecasts assez réguliers, des remises à jour des finances. Nous ne sommes pas sclérosés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un budget pour l'année, et puis on se dit on verra bien ce qui se passe. Simplement, nous travaillons à flux tendu en se disant bah, s'il y a besoin de faire des bascules, nos services sont compétents, ils ont la volonté de le faire, donc on va dans ce sens-là. Donc, en section de fonctionnement, 310 09 94, les recettes, le chapitre 70, vente, produits, fabriqués, prestations pour 8 618 euros, chapitre 73, impôts et taxes pour 97 531 euros, chapitre 74, subvention d'exploitation pour 67 582 euros, chapitre 75, autres produits de gestion courante pour 3 600 euros, chapitre 77, produits exceptionnels pour 149 914 euros. Les dépenses, chapitre 011, charges à caractère général 352 943 56, chapitre 14, atténuation de produits pour -28 692 euros, le chapitre 65, autres charges de gestion courante pour -114 241,62, le chapitre 67, charges financières pour 100 000 euros. Section d'investissement 5 028 818, les recettes, chapitre 13, autres subventions d'investissement pour 28 818 euros, chapitre 16, emprunt et dettes assimilées à hauteur de 5 millions, dépenses, chapitre 20, immobilisation corporelle pour 20 000 euros, chapitre 21, immobilisation corporelle pour 5 028 818 euros. Avez-vous des
Alors, pour savoir cette décision modificative, je vais juste expliquer très longuement sur la délibération numéro 1. Vous comprendrez aisément que nous voterons pour, contre, bien évidemment. Il n'y aurait eu que la section de fonctionnement de la presse aussi, mais en raison des 5 millions inscrits de cette façon en investissement, nous voterons contre.
Je vous remercie.
Donc, qui est contre le vote de cette DM ? Ah, pardon. Allez-y, Madame Lagoutte.
Merci. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur le débat, il y a deux mots. Mais ce que j'avais envie de dire, puisque bon, vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est pour l'achat des terrains, je peux quand même regretter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je ne voulais pas me couper dans votre débat, je peux quand même regretter que des Langiciens ne puissent pas bénéficier de cette ZAC de la Grande Plaine. Et je voudrais juste que certains conseillers municipaux ici présents ont eu la chance, eux, peut-être un jour, en tant que Langiciens, de pouvoir accéder à un pavillon dans une ZAC ou à un HLM qu'on a pu faire construire. Et finalement, on est fiers de notre ville parce que ces pavillons, vous y vivez et vous vivez aussi.
Non, mais là, on est complètement hors des délibérations, madame.
Je ne sais pas grave, je vous dis. Et voilà, je voulais vous dire, voilà, il faut réfléchir à ça.
Vous n'en faites pas, on essaye de réfléchir, comptez sur nous quand même.
Oui, je vous lance pas.
Madame Lagoutte, on va encore se répéter rapidement, mais le but, c'est pas de casser, c'est d'améliorer. Donc, vous parlez de ZAC, vous parlez de la ZAC peut-être des Roches. Si vous parlez de ZAC des Roches, vous pouvez nous parler
ZAC
peut-être.
ZAC des Roches, ZAC
école, peut-être,
Buisson,
fantastique école.
Il y en a eu des ZAC, des années.
Il y a eu beaucoup de choses de fait. Nous, notre cible, c'est d'améliorer une Nangy. Vous aviez une vision d'amélioration, c'est un axe. Vision qui n'a pas, semble-t-il, convenu aux Nangiciens, puisque vous n'êtes pas aux affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est dans cet axe-là. Monsieur Billou, nous avons gagné une salle de 48 voix, mais vous avez perdu 349. Remettez-vous en cause.
Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Allez, une dernière pour M. Ancel.
Non.
Ouais,
non,
pas deux. Alors, deux. Budget du vote ADM sur le budget du aquatique.
Donc, pareil, hein, décision modificative pardon, concernant le budget du centre aquatique. Centre aquatique Aquabud. Donc, en section de fonctionnement, les recettes, l'ensemble des dépenses de fonctionnement s'élèvent à 0 euros. Aucun mouvement en recettes de fonctionnement. L'ensemble des dépenses de fonctionnement s'élèvent à, en face, bien entendu, 0 euros. Le chapitre 011, changement de directeur général, moins 29 000 euros. Le chapitre 023, virement à la section d'investissement pour plus 29 000 euros. Section d'investissement, les recettes. L'ensemble des recettes d'investissement s'élève à 29 000 euros, comme évoqué. Le chapitre 028T1, virement de la section de fonctionnement, plus 29 000 euros. Les dépenses, l'ensemble des dépenses d'investissement s'élève à 29 000 euros. Et le chapitre 21, immobilisation corporelle, à plus 29 000 euros. Nous avons eu la commission des finances et donné des explications sur ces points.
Je prends ta parole. 29 000 euros, c'est peut-être un détail, mais ces 29 000 euros viennent à un moment où l'équipe d'Aqualude, qui a tant fait pour cet équipement et pour la ville, a été contraint de partir suite à l'acharnement que vous avez eu plaisir à conduire contre eux. Et simplement pour cette raison-là, nous voterons contre, simplement en mémoire de cette belle équipe que Nangy va regretter. Tant mieux pour Grand Puy d'avoir recruté un excellent directeur dont vous ne souhaitiez plus. Donc nous allons recommencer notre façon à nous de rendre hommage à cette équipe et à tout ce qu'elle a fait ici à Nangy.
Tiens, je te laisse.
Je ne sais pas de quel acharnement vous voulez parler, Monsieur Billou. Et nous n'avons fait partir personne. Nous avons reçu un arrêt de travail du directeur. Et plus tard, nous avons reçu une notification qui nous signalait qu'il avait été effectivement recruté à la piscine de Grandpuits, qui n'avait pas d'ailleurs qu'il n'avait pas de poste offert. Il n'y avait pas eu d'autres candidats. Et le vice-président du syndicat n'était même pas au courant qu'il était recruté. Il y a des choses quand même étonnantes. Donc non, il n'y a pas eu de l'acharnement. Il y a eu une volonté de remettre les choses là où elles auraient dû toujours rester. Vous trouvez normal, vous, monsieur Billou? Non, je ne vais pas. Faut pas. Non.
Vas-y.
Allez,
vas-y.
Combien d'associations, monsieur Billou, pour renseigner leurs adhérents, mettent le numéro de téléphone d'un service municipal? Monsieur Kerbache, vous qui êtes dirigeant d'une association, est-ce que vous mettez le numéro de téléphone d'un service municipal? Est-ce que ce sont des agents municipaux qui renseignent vos adhérents sur les horaires d'entraînement, les tarifs, etc.? Non. Vous êtes une association et vous gérez vous-même votre association, en bon père de famille, suivant les statuts de votre association. Il est apparu que ce n'était pas tout à fait ce qui se passait. Donc nous avons simplement demandé ce que nous étions en droit de demander, puisque les associations dont vous parlez utilisaient gratuitement, pour certaines, avec une redevance qui n'avait pas été payée depuis 3 ans pour d'autres, donc utilisaient les locaux municipaux, ce qui est un avantage en nature non négligeable. On a même découvert, alerté par... Mais je le raconte parce que c'était drôle. Une dame qui me dit « Notre convention n'a pas été renouvelée. » « Ah bon, quel est le nom de votre association ?» On cherche et on lui dit « Mais madame, on n'a aucune convention avec votre association. » « Non, mais moi j'avais conventionné directement avec l'association, avec une autre association qui faisait donc de la sous-location et qui se faisait payer pour des créneaux qu'elle avait de la ville gratuitement. » Donc, nous avons effectivement demandé aux dirigeants associatifs leur statut, leur compte, voté en Assemblée Générale, ce qui a été demandé à toutes les associations.
Et il est tombé malade.
Toutes les associations ont donné ces documents, qui n'ont rien de confidentiel, puisqu'ils doivent être soumis tous les ans au vote de l'Assemblée Générale. À condition qu'il y ait une Assemblée Générale. À condition qu'il y ait des comptes rendus d'Assemblée Générale. C'est ça que vous appelez de l'acharnement ? Non, c'est juste d'être vigilant sur l'utilisation des deniers publics. Si nous avions eu, imaginons, on a un beau cinéma à la Bergerie, vous auriez trouvé normal, vous, qu'un agent utilise l'espace et puis se fasse payer pour faire des prestations? Non. C'est tout. C'est pas de l'acharnement. C'est juste demander que les choses soient respectueuses des règles, des règlements, des statuts. C'est tout.
Par contre, excusez-moi, que comptez-vous faire quand même pour les 400, donc sur combien, 350 licenciés quand même qui maintenant vont à Mormont, à Melun, à Provins pour faire du sport?
C'est
la remise en forme.
C'est la serviette.
Mais les espaces sont toujours existants. Donc, n'importe quelle association a envie de venir s'installer de manière ordinaire, comme toutes les associations qu'il peut y avoir dans Nangis. Il y a plein d'associations à Nangis.
Parce que vous êtes quand même beaucoup, quand même.
Oui, mais c'est pas parce qu'on est beaucoup qu'on s'affranchit des règles, monsieur Kerbache.
Vous ne dites pas ça, mais quand même, il n'y a pas de reprise, il n'y a personne qui dirait...
Mais je ne suis pas dirigeante de ces associations. C'est aux adhérents, aux adhérents de s'organiser et de proposer un projet associatif.
Mais c'est quand même un
et pour ce qui est des activités qui avaient lieu dans la piscine, nous avons organisé les choses, vous le savez, ça a été présenté notamment lors du forum des associations, et maintenant les choses sont claires, ce ne sont plus les associations ou des structures dites associatives qui s'occupent d'organiser ces prestations. Mais ce sont directement les employés, les agents de la ville, les diplômés de la ville qui proposent des cours de natation, pour résoudre les problèmes de phobie de l'eau, d'aquagym, de bébés nageurs, et les choses sont claires. Les agents sont des agents vides sur leur temps de travail et ils payent à la caisse de la piscine. C'est tout.
En fait, on ne fait plus de confusion, il n'y a plus de confusion des gens, c'est tout.
Non, mais il y a beaucoup de...
Je comprends.
Par exemple, tu partes à Mormant, à Machefort, ou à Melun, ou à Provence, on est quand même une ville comme Nangis. Je veux dire, il y a quand même, même si ce n'est pas une association, quand même quelque chose pour les habitants qui rentrent et qui veulent se défouler, quoi, dans ces jours-là.
Il y a un projet de municipalisation, c'est ce qu'on vient de vous répondre, pour rendre ce service aux Nangisiens. La différence qui va exister, c'est simplement qu'aujourd'hui, on a remis les choses d'équerre. Je vais vous donner un dernier exemple, comme l'a dit Madame le Maire. Ce que l'association dont on parle, portée par la personne qui dorénavant est partie, avait carrément annexé, par exemple, le Sona et le Hama.
On n'était même pas sur la convention.
Non, mais c'est ce qu'on vient de vous dire, Monsieur Dirbach.
Ça peut être Magic Farm, ça peut être...
Oui, ça peut être n'importe qui, à partir du moment que les conventions sont en règle, effectivement.
Une obligation de service public,
je pense que c'est un abus de langage.
Alors, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie, Monsieur Lancel, DM consacré au budget activité culturelle.
Délibération numéro 7, effectivement, vote de la décision modificative numéro 2 2021 du budget activité culturelle. Il est proposé au conseil municipal de voter la DM2, décision modificative numéro 2 2021 du budget activité culturelle, qui s'équilibre comme suit. En section de fonctionnement, les recettes, l'ensemble des recettes de fonctionnement s'élèvent à 47 465,20 €. Le chapitre 70, produits, services, domaines et ventes diverses plus 5 618 €. Le chapitre 74, dotation et participation, plus 41 600 €. Le chapitre 75, dotation et participation, plus 247,20 €. C'est ça, des dépenses. L'ensemble des dépenses de fonctionnement s'élève à 47 465,20 €. Le chapitre 011, charges à caractère général, pour 47 065,20 €. Le chapitre 67, charges exceptionnelles, pour 400 €. En section d'investissement, les recettes... L'ensemble des recettes d'investissement s'élève à 35 000 €. Le chapitre 13, subvention d'investissement, pour 35 000 €. Les dépenses, l'ensemble des dépenses d'investissement s'élève donc à 35 000 €. Le chapitre 20, dépenses imprévues, pour 9 000 €. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, pour 26 000 €. Avez-vous des questions, Madame Lagoutte?
Pas de questions, mais pour les raisons évoquées tout à l'heure, on restera sur notre même vote. On va s'abstenir sur la délibération.
Madame le Maire.
Donc, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la prochaine délibération concerne l'approbation des statuts modifiés de la communauté de communes de la Brie Nangisienne. Je ne vais pas tout lire la notice, mais il est apparu que la rédaction de la compétence patrimoine archéologique culturel manquait de précision. Donc, pour vous donner un exemple, elle prévoyait comme compétence de la communauté de communes mise en valeur et promotion du patrimoine archéologique, inventaire, conservation, etc. Ça, c'est pour Châteaubleau, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, inventaire, mise en valeur et promotion du patrimoine présentant un intérêt historique, artistique, esthétique, scientifique et ou technique. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la mise en valeur? La mise en valeur, c'est aussi les travaux. Donc ça aurait pu vouloir dire que l'ensemble des travaux de l'Église relevait de la compétence de la communauté de communes. Donc, et nous avons eu Mme Arsquette, qui est l'élue en charge à la communauté de communes, et les services se sont entretenus avec l'agent également. Nous leur avons donc expliqué en quoi la rédaction pouvait porter à confusion et qu'il nous semblait nécessaire de préciser davantage les choses. C'est pour ça que nous proposons une rédaction modifiée, notamment en précisant par exemple inventaire, mise en valeur et promotion du patrimoine défini par l'intérêt communautaire. Ainsi, le conseil communautaire se vote sur ce qu'il considère être l'intérêt communautaire et il n'y a pas de problématique de compétences et de risque d'interprétation erronée des statuts. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Lagoutte.
Merci. C'est la deuxième fois que vous vous opposez à l'approbation des statuts modifiés de la communauté de communes. La deuxième fois que vous votez pour en conseil communautaire et qu'après réflexion, vous votez contre en conseil municipal. Je me pose beaucoup de questions. Je trouve ça complètement atypique, cette façon de travailler. Puisque vous avez fait en effet quelques remarques lors du dernier conseil communautaire, mais malgré tout, vous avez voté, comme tous les conseillers communautaires qui étaient présents dans la salle, à l'unanimité. Cette même d'ailleurs délibération qui était passée, pour laquelle vous aviez voté aussi pour à la communauté de communes. Je pense que vous voulez continuer de bloquer la communauté de communes dans son fonctionnement, et j'en suis persuadée. Je pense que votre équipe ne sait pas travailler en coopération avec la communauté de communes parce que j'ai été vice-présidente, en effet, et j'avais des contacts très réguliers avec les autres vice-présidents, avec mon président, et nous avions vraiment une façon de travailler la modification des statuts ensemble. Donc je ne sais pas quel est le moyen que vous utilisez en termes de communication. Mais il n'est pas possible de voter pour à l'unanimité en conseil communautaire et de voter contre au conseil municipal. Parce qu'à chaque fois, vous réfléchissez après. Mais il faudrait peut-être réfléchir avant le conseil communautaire. Vous avez, comme nous, les convocations au conseil communautaire 5 jours avant. Vous avez le temps de travailler, vous avez le temps de réfléchir. Et vous votez pour en conseil communautaire et contre aujourd'hui. Pour ces raisons, on votera contre, bien sûr, cette opposition.
Madame Lagoutte, si on a la chance d'avoir des services avec nous, c'est pour que justement ils nous éclairent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Je le dis, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais quand on voit qu'on fait une erreur, eh ben on la corrige.
Non, mais sur la même délibération, il va y en avoir combien comme ça ? Je pense que vous aviez largement le temps de voir avec la communauté de communes quand même.
Ben, il reste plus grand monde, vous savez, pour pouvoir traiter les dossiers à la communauté de communes. Hein. Quant aux échanges avec le président, vous savez très bien ce qu'il en est. Malheureusement, à notre grand regret.
Et avec la vice-présidente.
Ben, vous savez, quand on a un président qui se permet, je le dis aussi, quand on vote en communauté de communes, les noms. Ouais. Et quand on a le maire d'une commune qui n'est pas de Nangy, qui vote, et que le président se permet de dire « Ah, lui, ça n'aurait pas étonné. » Vous trouvez ça normal, vous ? Alors, forcément, effectivement, le climat de travail n'est pas serein, mais je le regrette.
Et avec la vice-présidente ?
Mais je l'ai précisé, je vous signale, je vous ai dit, Madame Lagoutte, que j'ai eu en ligne Madame Arsquette pour lui expliquer tout ça. Il ne l'avait pas vu non plus. Comment il s'appelle, celui de la culture, Carl Gauthier, a eu Mathieu Métier en ligne. Ils se sont parlé. Ça s'est très bien passé, de manière très cordiale, je vous rassure. Et effectivement, il y a aussi des choses qui leur avaient échappé. Donc, je soumets au vote cette délibération. Ah, pardon. Armand.
Sur le fond de l'affaire, la proposition de la communauté de communes, c'était accompagnement et soutien technique et administratif à l'exclusion d'un soutien financier apporté aux communes pour la conservation de leurs biens protégés ou non au titre des bâtiments historiques. Autrement dit, qu'est-ce que concrètement la communauté de communes aurait pu apporter en ce qui concerne la restauration de l'église de Nangy, sinon de l'argent, ce que précisément elle excluait ?
Des compétences, peut-être.
Mais non. Ils n'en ont pas plus que nous.
Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne la modification du périmètre du SDESM par l'adhésion de nouvelles communes. Monsieur Hamelin, la parole est à vous.